Merci Benoît, merci à l'équipe musicale et à toute l'équipe qui est ce matin avec nous. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Que Dieu soit loué, c'est bien. Alors ce matin, mon objectif, j'avais plusieurs sujets cette semaine à préparer dans la tête. Je peux vous dire que j'ai changé ma prédication à plusieurs reprises. Le thème a fouillé, j'ai demandé même des conseils, j'ai changé des idées, brassé des idées. Et je pense que finalement, je suis parvenu à quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est de vous poser la question, nous allons nous regarder nous-mêmes ce matin. Comme Église dans l'Assemblée chrétienne du Cap, comme chrétien, et quand je parle de cela, je ne parle pas du bâtiment. Je ne parle pas des briques et des murs et des plates, des peintures, là. Je parle de vous et de moi. Est-ce que ça va? C'est clair, ça? OK. Sinon, on va trouver un interprète pour pouvoir expliquer ça. Alors, donc, j'aimerais nous poser la question à nous-mêmes de nous examiner. Un regard sur nous-mêmes. Supposons que j'invitais un païen, un inconverti, quelqu'un qui ne croit pas en rien, qui ne connaît pas notre Église. J'avais le goût de faire ça, j'ai dit, mais je vais créer des problèmes. Alors, inviter quelqu'un qui viendrait dans notre église et qui va être à ma place ce matin-là, et puis il va nous dire ce qu'il pense de nous, comme chrétiens. Un inconverti, je vais lui dire de ne pas nous insulter, mais quand même d'être gentil et de dire, quand lui regarde les chrétiens dehors-là, quel est son regard sur nous? Comment il nous voit? Alors, sommes-nous un ghetto? Ou une assemblée accessible à tous? Ça, c'est la question. L'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine est-elle un ghetto ou une église accessible à tous? Et quand je parle de l'Assemblée, je ne parle pas de bâtiment seulement, je parle de chacun de vous et de moi-même y compris. Alors donc, on va faire ce voyage-là ensemble, on va se regarder nous-mêmes. Et au travers des Écritures, et puis à travers des exemples, on va finir par voir à la fin si nous sommes un ghetto ou si nous sommes vraiment une assemblée accessible. Amen. Ça va? Alors, on part avec ceci. Qu'est-ce que c'est qu'un ghetto? Si on vous posait la question, un ghetto pour vous, c'est quoi? Si je vous demandais ce matin, un ghetto, c'est quoi? Généralement, quand on entend parler de ghetto, on a tendance à voir plusieurs affaires. Mais on va voir ces images plus tard. Mais quand on parle d'un ghetto, selon le dictionnaire, quand j'ai regardé, un ghetto, c'est ce qui a été dit, quartier des Juifs. Quartier où les Juifs étaient obligés de demeurer. On parle de ghetto de Varsovie. En 1943, au début de la Deuxième Guerre mondiale, et les gens ont été forcés à être ghettoisés. On peut dire comme ça? On les a ghettoisés, on les a mis dans un endroit, on les a cloîtrés dedans avec des clôtures, on les empêchait d'être libres dans leur mouvement. Et dans l'apartheid en Afrique du Sud, des Noirs étaient ghettoisés. Ils pouvaient aller travailler dans le quartier des Blancs, mais à une certaine heure, il faut qu'ils rentrent dans leur ghetto. Dans leur quartier où ils ne pouvaient plus sortir à une certaine heure. Il y avait un couvre-feu. Mais quand on parle de ghetto, je ne parle pas de racisme ou quoi que ce soit, parce qu'on peut même être blanc et être dans un ghetto. Est-ce que ça va? Alors, un ghetto, on nous dit, c'est un lieu où vit une minorité qui est isolée du reste de la population. Sommes-nous comme ça, nous autres? Un lieu où vit une minorité qui est isolé du reste de la population. Les chrétiens sont-ils des peuples ou un lieu, l'Église est-elle un lieu isolé du reste de la population? Est-ce que les gens nous voient comme un ghetto ou bien ils nous voient comme des gens comme eux et qui boivent comme eux, qui mangent comme eux, qui payent leurs factures d'électricité comme eux, qui ont des enfants comme eux et qui peuvent pleurer, qui ont des émotions comme eux et qui sont accessibles? Ou bien il dit, non. Ceux-là, ils sont dans un ghetto. Moi, je ne peux pas aller là-bas, je n'ai pas le même tatou que eux autres, je ne me coiffe pas comme eux autres. Eux-là, ils parlent en lui second. Et moi, je ne connais pas ça. Certains d'entre eux-mêmes qui sont doués, ils parlent en darbi. Et moi, je ne sais pas parler darbi. Alors, comment je peux être parmi ces gens-là? Est-ce que c'est comme ça que nous sommes perçus? un ghetto aussi, c'est une situation. Situation d'un groupe social fermé sur lui-même. Le ghetto gay, le ghetto intellectuel. Vous savez qu'il y a un ghetto gay à Montréal qu'on appelle village gay. C'est un ghetto. Parce que si tu n'es pas gay, tu ne peux pas habiter là, tu ne vis pas avec eux. Donc, on peut aussi avoir des ghettos intellectuels ou des gens seulement qui sont intellectuels, qui se côtoient. Alors, on va parler des cliques. Dans notre langage, on va dire des cliques. Moi, je dirais des cliques et des claques. Ils sont ensemble. Et si tu n'es pas dans leur clique, tu dois être dans un claque quelque part. Et si tu n'es pas là, tu n'es nulle part, tu es entre deux chaises. Est-ce que c'est ça que nous avons à l'Assemblée chrétienne du Cap? Alors, on va réfléchir sur ça. Vous vous souvenez du ghetto Harlem? À New York, des policiers avaient peur de rentrer là-bas. Mais la meilleure équipe de basket est sortie de là, qui a fait la popularité de cette ville-là. Même en Afrique, on savait ça, Harlem. On les connaissait à cause de leur club. Quand on parle de ghetto de Varsovie, et ces gens-là qui avaient été cloisonnés dans des endroits où ils ne pouvaient pas sortir, on les contrôlait. Alors si, est-ce que nous sommes comme ça, l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine? Le village gay à Montréal, en tout cas je l'ai pris sur un site, si c'est ça, je ne sais pas, je ne suis jamais allé là-bas. Alors ils sont, ça semble avoir beaucoup de couleurs. Hein. Alors maintenant mon questionnement, l'Assemblée chrétienne est-elle accessible? L'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine est-elle accessible? Une église accessible c'est quoi pour vous? Une église accessible, est-ce que ça voudrait dire que Samuel Lagotte et le conseil d'administration Guillaume Ziguer, ils donnent la clé à tout le monde? Tout le monde, tous les membres comme enfants, jeunes, ils ont tous une clé passe-partout pour avoir accès à la salle. C'est ça une assemblée accessible? Les itinérants même ont une clé, ils peuvent rentrer quand ils veulent, ils sortent comme ils veulent. Est-ce que c'est ça? Ok. Une assemblée accessible, est-ce que c'est une assemblée où géographiquement c'est accessible par les autobus, les métros, les avions vont atterrir bientôt dans nos parkings avec les hélicoptères, est-ce que c'est ça qu'on dit? Ok, je ne sais pas, c'est possible. Une assemblée générale, et je dis une assemblée générale, une assemblée accessible à tous, est-ce une assemblée qui est à côté d'une autoroute où toutes les voies convergent vers l'église? C'est-à-dire qu'on va demander au maire de Montréal, là, ils vont converger toutes les voies vers le Cap de la Madeleine. C'est ça? Non. Ça peut aider s'ils font ça pour nous. Si le maire Yves Lévesque le fait pour nous, on ne dira pas non. Si le premier ministre fait tout ça pour nous, on dira oui, on ne crachera pas dessus. Mais une assemblée accessible, une église accessible, c'est quoi? On va regarder ça tout de suite ensemble. Hey, André, mes affaires se répètent. Une église accessible, c'est une église accueillante. Une église accueillante. Elle est accueillante à tous les niveaux. C'est une église accueillante, c'est une église où il n'y a pas de favoritisme. Une église où tout le monde est traité sur les mêmes pieds d'égalité. Où tout le monde est regardé de la même manière avec le regard de Jésus-Christ. Une église où les gens peuvent se donner des hocs africains et des hocs blancs. Une église où on peut se réjouir ensemble. Une église où on ne regarde pas les gens avec mépris, où d'autres sont tassés dans un coin et d'autres s'égayent dans l'autre côté. Une église, ce n'est pas ça une église accueillante. Regardons l'Écriture, ce que la Bible nous dit. Dans Jacques, on peut le lire dans Jacques chapitre 2. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si vous tournez... Attends, je suis allé trop loin avec ça. Ok. Je vais revenir à mon texte ici, excusez-moi. Ce serait mieux parce que j'ai l'impression que mon PowerPoint, les animations que j'ai données, ça ne va pas comme je le veux. Une minute. Si tournant vos regards vers lui, celui qui porte l'habit magnifique, et vous lui dites, toi, assis-toi à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi debout, là, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. L'Écriture nous pose la question. Deux personnes rentrent dans la salle ici, là. L'autre est habillé, costumé, cravaté. Et l'autre vient en haillon. Et puis notre équipe d'accueil les voit venir. Alors tout le monde court vers celui qui est bien vêtu. Bonne arrivée, on te donne la bonne place. Il y a du café que madame et madame Ricard et son équipe avec Diane Massicotte et tout cela ont fait. On leur donne des muffins. Et puis il y a un pauvre qui rentre, on dit, toi, va te déshabiller, va t'asseoir au coin là-bas, là. Et puis attends. Est-ce que c'est ce que nous faisons? La Bible dit que si nous faisons cela, que nous faisons du favoritisme. Et dans la maison de Dieu, il ne doit pas y avoir de favoritisme. Une église accessible, c'est une église où il n'y a pas de favoritisme. C'est une église où tout le monde est bien traité. C'est une église où on prend soin des uns des autres, on a de l'attention pour les gens. Donc nous sommes une église accueillante. Oui, on a travaillé, on a mis une équipe d'accueil sur place. J'espère que ça va bien, parce que nous sommes encouragés. Tony Bissonnet et d'autres qui sont arrivés ici, ils ont dit que, ouais, ils disent, vous avez une équipe de tonnerre. Moi, je ne sais pas s'ils sont de tonnerre, là, mais j'aimerais qu'ils soient une équipe de tonnerre après. Et il dit, depuis le parking, j'ai été accueilli. Je me suis senti accueilli depuis le parking. Et j'étais tellement content, là. Nous étions tous contents, tous les leaders qui étaient autour de la table, quand on entendait notre frère parler. Et jusqu'à l'intérieur. Donc, l'accueil commence depuis le parking jusqu'à l'intérieur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre équipe d'accueil? Une main d'acclamation à notre équipe d'accueil qui font une bonne job. Beau temps, mauvais temps, ils sont là. Vous vous souvenez, quand il y a eu la grande tempête de neige, l'eau était partout ici. On pouvait prendre un bateau pour naviguer dessus, hein. Mais notre équipe, très tôt le matin, était là avec Mathieu Gauthier, David Cadotte et Michel Bouc. Et toute l'équipe était là avec les dames, d'autres dans la salle, d'autres dehors, en train de travailler. Et ce matin-là, je prêchais. Quand je suis arrivé et voir ces jeunes-là, dehors, en train de travailler sous un froid comme ça, et ils ont même fait une petite butte à la sortie du culte pour passer devant PC, pour ne pas que les membres marchent dans l'eau pour arriver à leur parking. J'avais les larmes aux yeux. Et de voir une équipe qui est solide, qui veut faire de bonnes choses. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, votre récompense au ciel sera grande. Parce que vous avez pris soin du peuple de Dieu. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, cette équipe, toute l'équipe. Et tous ceux qui travaillent dans l'ombre aussi, et même ceux qui font le ménage. Une équipe accessible, une église accessible, c'est une église accueillante. Une église où il n'y a pas de favoritisme. Une église où il n'y a pas de la discrimination raciale. Où il n'y a pas de discrimination de sexe. Où il n'y a pas de discrimination sociale. Pour dire l'autre est grand, l'autre est intellectuel, l'autre a un doctorat, toi tu n'as pas de DAP, tu n'as même pas fait un secondaire 1. Non, nous voudrons que l'Assemblée chrétienne soit une église où tout le monde se sent accueilli, bienvenu. Pauvre ou riche, intellectuel ou pas, vieux ou jeune, même si tu marches avec une canne et que tu as 110 ans, tu es bienvenu chez nous ici à l'Assemblée chrétienne du Cap. Amen. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas tasser les vieux dans un coin, les jeunes dans un autre côté et les jeunes adultes au milieu. Non, on ne veut pas ça. On veut que ce soit un peuple mêlé de tous. Le peuple de Dieu est un peuple mélangé de vieux et de jeunes, de bébés et de ceux qui sont ados. Nous sommes tous ensemble. C'est un mélange, c'est une richesse. Amen. Alors les jeunes, je vous en prie, ne regardez jamais une personne âgée avec un regard mépris parce qu'il est vieux. Parce que toi aussi, tu vas vieillir. Alors, prends soin de lui maintenant. Et en prenant soin de nos personnes âgées, nous sommes en train de dire à la future génération, voilà comment vous devez traiter les personnes âgées. Quand tu seras rendu là, les jeunes vont te traiter comme ça. Mais si tu donnes un gros billet de mauvais regard, de mépris aux personnes âgées, quand tu seras rendu là, on te donnera ta monnaie. Ça va? Est-ce que c'est clair? Une église accessible, accueillante. C'est une église qui prend soin de tout le monde. Dans Actes des Apôtres, il y a Actes 5, et dans Actes 5, Actes 2 jusqu'à Actes 5, les premiers chrétiens travaillaient ensemble, l'église était naissante, et ils vendaient leurs biens, ils partageaient, et puis le besoin de tout le monde dans l'église était comblé. Et on arrive dans Actes chapitre 6, qu'est-ce qui va se passer? Il est dit, excusez, dans Actes chapitre 6, versets 1 à 7, il dit, en effet, en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Alors, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, soit plein de qui l'on rend un bon témoignage, soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, et qui se chargeront de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et l'Écriture nous dit que cette proposition plut à toute l'Assemblée. Et ils se sont mis ce jour-là à élire des hommes de Dieu. Donc, si vous lisez, vous allez voir toute la liste après. Ces hommes de Dieu-là ont été choisis pour cela, pour faire ce travail-là. Et l'Église venait de naître. Et une crise venait de rentrer. Leur première crise après le départ du Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait que des gens ont commencé à négliger d'autres dans l'Église. Les hérénistes, c'était des femmes juives qui étaient de culture grecque. Et les femmes hébreux, c'était ces femmes-là qui n'étaient pas parties nulle part, qui étaient restées en place, qui étaient d'origine pure. Qu'on pourrait dire, il y a Québécois de souche, Québécois dénaturé qui est allé travailler ailleurs ou d'autres choses. On pourrait comparer, ce n'est pas parfait, mais à peu près comme ça. Mais ces femmes grecques-là et juives qui étaient de culture grecque, qui étaient là dans l'église, ils étaient méprisés dans le service. On donnait à d'autres. Et eux, ils n'en recevaient pas. Il a fallu qu'ils se plaignent. Et quand leurs hommes ou leurs femmes se sont plaints, les anciens, moi j'appelle ça la rapidité du leadership. Dès que l'autorité a entendu, dès que les pasteurs de l'église ont entendu, les 12 apôtres ont entendu cette plainte, ils n'ont pas dit, on va tasser ça en dessous de la table. Non, ils ont fait face tout de suite à ça. On va régler ça rapidement. Dans l'urgence, ils ont mis des principes. Choisissez des hommes. Dans certains écrits, ils disent que c'est la première fois où les diacres furent établis dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu. Mais je suis désolé, il n'est pas écrit diacre ici, dans ce passage-là. Dans l'urgence, ils ont fait face à une situation. Mais si vous voulez lire les actes, pour savoir où on a mis les diacres, on va trouver ça dans Timothée et dans Tite, et on va voir ça. Là, on parle de diacres avec des critères bien établis. Ici, c'est dans l'urgence, on choisit des gens pour répondre à un besoin. Et les gens répondent aux besoins. Et après, la croissance monte. Le problème, c'était le mépris des autres. La discrimination. Dans une église, quand on commence à discriminer, à mépriser les autres, on va créer un problème au sein de notre église. Et on n'en veut pas. On en a déjà assez connu dans le passé. On n'en veut pas d'autres problèmes. Est-ce que ça va? On veut que nous prenions soin des uns des autres. La discrimination, ça peut arriver où? Comment on peut combattre ça? Dans notre service. Dans l'enseignement de la parole. Dans l'école de dimanche. Dans les ministères, au niveau du son, partout, dans tous nos ministères que nous faisons. Dans le soin qu'on prend des enfants, qu'on donne aux enfants des autres et que nous donnons à nos enfants même. Et dans les partages qui se font tous les jours. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que j'ai dit, bon, l'autre là, c'est mon ami, je vais le mettre dans le groupe musical, l'autre, c'est pas mon ami, il n'a pas sa place là, on ne l'appellera pas. Est-ce que ce que nous faisons, c'est de la discrimination. Bientôt, on va voter des diacres. On va voter réellement un conseil d'administration. Allons-nous le faire sur la base de la discrimination? Ou allons-nous le faire d'une manière honnête, droite, et correcte comme Dieu le veut? On a dit, ben lui, sa tête me plaît, je vais le nommer diacre. Tu ne le rendras pas service d'aller lui demander d'être diacre s'il n'a pas les qualifications. Tu ne le rendras pas service de lui demander de faire partie du conseil d'administration. Si cette tasse-là, tu veux lui faire un cadeau, ce serait un cadeau empoisonné parce qu'il va aller dans un groupe, dans une équipe, il ne pourra pas travailler. Et même, ce ne serait pas avantageux pour l'Église. S'il vous plaît, faisons des choix éclairés et non sur la base de la discrimination, sur la base de nos amis, de nos copains ou de nos copinages, non, sur la base de la parole de Dieu. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Pas de discrimination. Une église accessible à tous, c'est une église accueillante. Une église qui ne fait pas de discrimination. Une église qui n'est pas et qui ne fait pas de favoritisme. C'est une église qui travaille pour la gloire de Dieu. Alors, une église accessible à tous est une église aussi, qu'on pourrait dire, où le salut est par la grâce. Le salut par grâce est pour tout le monde. Ou on pourrait dire le salut pour tous, le salut par grâce pour tous. Donc, ce salut-là, dans une église accessible, on ne vend pas le salut de Dieu. L'évangile est donné gratuitement. Dans Ésaïe 55, verset 1, il nous est dit que vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Je vous demande, quand vous partez dans le dépanneur, vous êtes capable d'aller acheter sans argent? Sans rien payer, ça existe le magasin ici? Et quand on voit, si tu n'as pas l'argent liquide, tu sors ta carte de crédit. N'est-ce pas? Alors tu payes d'une autre façon. Mais ici, Dieu appelle les gens. Venez aux fontaines où c'est gratuit. Venez recevoir le salut où c'est gratuit. Nous ne prêchons pas un salut par les œuvres. Même si les œuvres doivent suivre le salut, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce pour des bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Alors, donc, une église accessible à tous, c'est une église où tout le monde a accès gratuitement au salut de Dieu. Amen. Le salut, comment? Ce salut-là est prêché sur la chair. Ce salut-là est enseigné dans nos écoles de dimanche. Ce salut-là est connu par tous. Ce salut-là est connu par tous les membres de l'Église et ils sont capables de l'enseigner. Et ils annoncent un salut, un évangile christocentrique. Est-ce que ça va ça? Un salut christocentrique, qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire un salut qui est centré sur Jésus-Christ. Sur son œuvre, sur sa personne, sur sa mort, sur sa résurrection. Ce n'est pas un salut qui est centré sur nos services qu'on peut apporter aux gens. Venez chez nous, on mange du beng le matin, il y a du café. Ça, ce n'est pas l'évangile qui est annoncé. Donc, un salut, un évangile christocentrique, c'est centré sur la personne de Christ. Si tu annonces l'évangile et que Christ n'est pas parlé, sa mort n'est pas parlée, sa résurrection n'est pas parlée, le pardon des péchés n'est pas annoncé, tu as dit tout sauf l'évangile. Donc, on veut que le peuple de Dieu soit au courant de ça. Et le peuple, l'église qui connaît Christ, l'église qui est accessible pour tous, c'est une église qui annonce le salut par la grâce. Et tout le peuple doit savoir cela et pouvoir communiquer avec nos voisins dans notre travail et partout où nous sommes. Une église accessible à tous. Comme on l'a dit, Jésus dit dans Matthieu 6, il dit, allez vers les brebis perdues d'Israël. Ça, c'était au début du ministère. Et ça commence à une primauté. Alors, la priorité est donnée à Israël et puis en allant vers les autres nations. Et il dit, et allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les hébreux, chassez les lépreux, pas les hébreux, et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous devons donner l'évangile gratuitement, sans recevoir quelque chose en retour. On n'annonce pas l'évangile dans le but qu'on nous donne quelque chose. On le dit parce qu'on veut le bien de l'autre, parce que Dieu veut le bien de l'autre. C'est pourquoi une église accessible, c'est une église qui annonce l'évangile gratuitement. Et dans Matthieu 28, 19 à 20, nous connaissons, allez faites de toutes les nations des... Est-ce qu'il a dit quelques nations? Il dit toutes les nations. Hein? Toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer. Donc, on va faire des disciples avec l'évangile. En proclamant l'évangile, on fait des disciples. Quand l'évangile est annoncé, les gens sont sauvés, alors on les met dans des classes. Michel et son équipe se mettent à les enseigner. Amen. Et on les forme et on fait d'eux des disciples. Amen. Une église accessible à tous. Jésus lui-même était un moyen de cela, un véhicule qui annonçait l'évangile. Notre modèle par excellence. Il sillonnait les villes et les villages pour proclamer la parole de Dieu parce que c'était gratuit. Jamais il n'a demandé de l'argent pour cela. Il a fait cela pour le bien du peuple de Dieu. Et nous pouvons voir que l'évangile est gratuit encore. Parce que quand Jésus va rencontrer la femme samaritaine au puits de Sychar et il parle avec elle, elle essaie de mettre des barrières. Jésus tasse les barrières. Jésus lui demande de l'eau à boire. Elle dit, mais écoute, il n'y a pas de lien entre toi et moi là, tu es juif, moi je suis samaritaine là. Tu n'es pas supposé me demander quoi là? Et Jésus lui dit, si tu savais qui moi j'étais, toi-même tu lui demanderais de l'eau à boire et je te donnerai une eau qui jaillirait de toi jusqu'à la vie éternelle. Et la madame change de discours et dit, mais dans ce cas, donne-moi cette eau. Je vais la voir pour ne plus que je vienne ici au puits puiser de l'eau. Je lui dis, va appeler ton mari. Elle dit, je n'en ai pas. Je dis, oui, tu fais bien de dire que tu n'en as pas parce que tu en as eu 5. Même celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Elle dit, mais oui, mais toi, tu es un prophète. Nos parents nous ont dit qu'un prophète va venir, le Messie va venir. Et quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle là. C'est moi-même là. Jésus même dit, il dit, c'est moi là. Le prophète que tu as dit là, c'est moi. Jésus donne l'évangile. Il dit, l'eau que je te donnerai, l'évangile que je te donnerai, ça coulerait. Son impact n'est pas terrestre seulement, jusque dans l'éternité. Gratuit. La dame avait mis des barrières. Jésus a enlevé toutes les barrières. La culture juive avait mis des barrières. Les juifs, là, ils passaient pour aller à Jéricho. Ils montaient en haut, là. Ils devaient passer par Samarie. Mais ils laissaient la ville de Samarie. Ils faisaient un grand détour pour ne même pas rentrer dans leur ville. Jésus dit, il faut que je passe dans cette ville-là. Ils traversent dans la ville. L'évangile transcende géographiquement les villes, les frontières, les cultures. C'est pourquoi c'est gratuit. Amen. Une église accessible, c'est une église réellement où tous ont accès au sacerdoce. Nous sommes le peuple de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous, au contraire, vous et moi, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui avez reçu le don de Dieu par la grâce, vous qui êtes sauvés, vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes quoi? Vous êtes une race élue, une race excellente, une race que Dieu a appelée, que Dieu a choisie. Hey, vous parlez au point que vous allez devenir orgueilleux, qu'après je vais devoir prêcher sur l'humilité pour vous. Non, parce que Dieu nous dit que nous sommes une race élue. Et nous le sommes. C'est de croire à la parole de Dieu et de ne pas la mettre en doute. Il dit, vous l'êtes et je le suis. Nous sommes une race élue, choisie de Dieu. Dieu l'a dit, c'est vrai. Vous êtes un sacerdoce royal. Le sacerdoce parle du sacrifice. Le sacrificateur était dans le métier du sacerdoce. Il devait apporter des offrandes devant l'autel. C'était leur métier. Au début, Dieu, en choisissant Israël, c'était pour qu'il soit une nation de sacrificateurs quand ils sortent de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse dans Exode? Il dit, va dire à Pharaon de laisser mon peuple aller faire quoi? Aller m'adorer. Aller m'adorer. Dis à Pharaon de laisser mon peuple pour sortir d'aller aller m'adorer, pour aller servir l'Éternel. Tout le peuple était un peuple. Dieu, son désir était qu'il soit un peuple adorateur, un peuple qui a accès au sacerdoce, la liberté. Malheureusement, avec des comportements qui sont arrivés sur le chemin que vous connaissez, alors le sacerdoce a été confié à Aaron et à son peuple, Lévi. Ils vont servir à partir de ce moment-là. Mais dans le Nouveau Testament, alors Dieu, son premier plan, il ne l'a pas oublié, il nous revient. Alors en Christ, nous avons été restaurés pour être tous un peuple de sacrificateurs. Amen. Nous avons droit au sacerdoce, une église accessible à tous. C'est une église où les ministères sont ouverts à tous les chrétiens, nés de nouveau, qui croient en Jésus-Christ et qui veulent servir dans la maison de Dieu. Rien n'est privé à personne en fonction de ses dons, en fonction de ses talents, en fonction de son appel. Et tout cela dans un encadrement. Et tout cela dans un encadrement. Amen. Une église accessible à tous. Une église qui n'est pas un ghetto. C'est une église accessible à tous. C'est une église où les leaders sont disponibles et accessibles à tous. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, 21, 22. Et puis, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous sommes invités à nous approcher. Jésus, le modèle par excellence, était un leader qu'on pouvait approcher. On n'avait pas besoin de prendre audience avec lui. On n'avait pas besoin de prendre rendez-vous 6 mois, 1 an avant d'être reçu par lui. Les malades seront morts il y a longtemps, comme on le fait avec nos médecins. Lui, il était accessible. On pouvait aller à lui à n'importe quel moment. Il invite même des gens à venir à lui. Les brebis pouvaient aller vers lui à n'importe quel moment. Et dans Hébreux 14, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de l'agneau et du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia! C'était un leader qu'on pouvait approcher. Dans l'Antiquité, on ne pouvait pas approcher le trône d'Assyrus. Le roi Assyrus, on ne pouvait pas s'approcher de son trône s'il ne t'avait pas invité. Le mari d'Esther. Parce que s'il ne te tendait pas le sceptre, si tu te rendais là-bas, tu partais à tes risques et périls. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, avant la venue du Messie, on ne pouvait pas approcher Dieu n'importe comment. Il n'y avait que le souverain sacrificateur seul qui pouvait rentrer dans le lieu saint. Si tu te trompais, tu faisais erreur d'aller toi seul avec tes boubous et tes habits de plombier, tu vas périr là-bas. Il fallait être dans des conditions pour aller dans la présence de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu appelle, Dieu invite. Le voile est déchiré. Le lieu saint qui nous séparait avec le voile, ça a été déchiré. Maintenant, nous avons tous accès à Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons parler avec Dieu. En communauté ou en individu, on peut aller vers Dieu. Alors, c'est un leader qui est accessible. Alléluia. Et Dieu nous invite. Et dans l'Écriture, on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus était accessible. La question, sommes-nous accessibles comme leader? Dans notre ministère, à l'école du dimanche, Stéphane, es-tu accessible? Michel Penaud, es-tu accessible avec les aînés? Adama Diko, est-ce que tu es accessible? Benoît Fortin, le troupeau peut-il dire que nous sommes accessibles? Daniel Gagné, est-ce que tu es accessible dans ton travail? Yannick, et tous ceux qui sont là-bas, dans vos ministères, êtes-vous accessibles par le peuple de Dieu? Si nous ne le sommes pas, alors nous ne sommes pas en train de perdre le troupeau de Dieu. Nous devons être accessibles à tout moment. Et nous voulons dire merci à nos femmes qui permettent que le téléphone sonne à n'importe quelle heure dans notre maison et qu'elles ne se plaignent pas. Même si des fois elles peuvent grogner un peu, mais ça passe quand même. On peut dire merci. Trevor, es-tu accessible? Yes. Alors, on va voir cela. que tous nos frères, qu'on soit accessible dans le ministère pour le peuple de Dieu. Jésus était accessible tellement que je vais vous montrer. Il était accessible que la femme pécheresse pouvait l'approcher avec un parfum. Et les gens disaient, s'il savait, s'il était prophète et qu'il savait la vie de cette femme, il ne se laisserait pas toucher. Il dit, oui, je sais qui est cette femme, Simon. Et il va lui conter l'histoire de deux personnes qui devaient des dettes. Il dit, tu vois cette femme, quand je suis rentré, elle n'a pas arrêté de baiser mon pied. Elle n'a pas arrêté de mettre du parfum sur mon pied. Elle n'a pas arrêté de laver mon pied avec ses larmes. À cause de cela, partout où on parlera de l'évangile, cette femme, son nom sera mentionné. Parce que ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Jésus était accessible au point que les pécheurs qui étaient rejetés par la société pouvaient s'approcher de lui. Les disciples que Jésus aimait, il était tellement qu'on pouvait l'approcher que lui pouvait se coucher sur sa poitrine. Jésus était un leader accessible que la femme avec la perte de sang depuis 12 ans a pu toucher Jésus dans la foule. Où les gens disaient, « Ouh, il l'a touché. » Mais Jésus s'est laissé toucher. Il dit, « Quelqu'un m'a touché. » Elle a été guérie. Y a-t-il des gens qui ne peuvent pas vous toucher comme leader? Sommes-nous des leaders qu'on ne peut pas approcher? Sommes-nous des leaders qu'on doit prendre rendez-vous? Sommes-nous des leaders que le peuple a peur de venir vers nous? Ou nous sommes des leaders accessibles, disponibles, prêts à écouter, prêt à parler. Et non, de dire, ouais, dis-moi ce que tu as dit là, vite, tu vas partir là. Oh, moi, super, non, c'est pas ça. La femme grecque, Jésus était tellement accessible que cette femme grecque a pu lui demander de lui venir en aide pour délivrer sa fille. Et voilà ces images que je montre. La femme, Jésus était tellement accessible que Bartimée, au milieu de la foule, pouvait lui adresser une requête. Bartimée, qui était aveugle dans les rues de Jéricho, qui tâtonnait tous les jours et qui mendiait tous les jours. Quand il a entendu que c'est Jésus qui passait dans les rues, et quand il a entendu cela, on dit qu'il a sauté d'un bond. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus n'avait pas entendu. Et la foule lui disait, toi, tais-toi. Hey, prends tes armes, tais-toi. Il dit, crie plus fort. Oh, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur a entendu. Il s'est tourné, il a arrêté son parcours. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que je retrouve la vie. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et Bartimée a vu clair. Et il a gambadé comme un cabri. T'es content? Gambadé comme un veau qui sort d'une étable en été. Tout le monde était joyeux et le monde louait Dieu. Pour conclure, frères et sœurs, une église accessible, nous avons vu que c'est une église accueillante. C'est une église réellement qui est accès, où on a accès au salut par la grâce. C'est une église où on a accès au sacerdoce, c'est-à-dire au ministère, on peut servir le Seigneur. C'est une église où les leaderships, où les leaders sont disponibles et accessibles. Ayant vu tout cela, ce matin, pouvons-nous dire, ou peut-on dire que l'Assemblée chrétienne du Cap, la Madeleine, est une église accessible ou un ghetto? Je vous laisse avec cela. Si nous sommes un ghetto, s'il vous plaît, changeons. Maintenant, nous savons quoi faire pour ne plus être un ghetto. Si nous ne le sommes pas, alors maintenons le cap. Avançons. Il y a des églises où les gens ne peuvent même pas se parler. Des gens sont nés dans l'église, ont grandi, ils sont isolés. Ils sont seuls dans la foule. Qu'ils n'en soient pas ainsi parmi nous. Avant de prier, j'aimerais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Et que tu vas dire à ton voisin bonjour. Bonne fin de dimanche. Et bon dimanche. Bonne fin de journée, peut-être qu'on pourra dire comme ça.